bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'A1 du gouvernement Ilunkamba, il y a des acquis significatifs, certes, mais les défis sont encore énormes. La paix n'est pas encore totale, les besoins sociaux de base ne sont pas entièrement satisfaits, la stabilité de la monnaie reste encore une quête. Propos du ministre d'État chargé de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement qui dressait hier mercredi à Kinshasa devant la presse les bilans du travail fait par l'exécutif. Par ailleurs, David Jolino Makelele a mis en avant certaines réalisations, par exemple dans les secteurs de la justice et de l'éducation. Comment jugez-vous le bilan de l'A1 du gouvernement Ilunkamba et quelles doivent être les nouvelles priorités de ce gouvernement? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission David Jolino Makelele, il est ministre d'État, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Bonsoir monsieur le ministre David Jolino Makelele.
Bonsoir monsieur.
Steve Kivuata, secrétaire général du parti politique Nouvel Élan, il est aussi porte-parole du coordonnateur de la coalition Lamouka. Bonsoir monsieur Steve Kivuata.
Bonsoir.
Et professeur Félicien Kabamba, il est professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Bonsoir professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir Kimaté.
Bienvenue à tous une fois de plus.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Il y a des acquis significatifs, certes, mais les défis sont encore énormes. La paix n'est pas encore totale. Les besoins sociaux de base ne sont pas entièrement satisfaits. Le chômage est encore endémique. La stabilité de la monnaie reste encore une quête. C'est en ces termes que le ministre d'État chargé de la communication et des médias s'est adressé à la presse hier à Kinshasa. Il présentait les bilans du gouvernement un an après son investiture. Par ailleurs, David Jolino Makelele a mis en avant certaines réalisations, par exemple dans les secteurs de la justice et de l'éducation. David Jolino Makelele est au micro de Paul Matendo.
La justice est en train de retrouver ses lettres de noblesse dans notre pays avec l'avènement d'un état de droit tel que consacré dans notre constitution et affirme dorénavant son indépendance avec jalousie. Si hier nous assistions à une justice du plus offrant et que les procès et jugements se négociaient comme aux enchères, aujourd'hui, l'appareil judiciaire de notre pays devient de plus en plus le bouclier de la société contre les antivaleurs et autres comportements déviants, même si tout n'est pas encore parfait dans sa pratique. Sur le plan de l'éducation, consécutivement à la vision du chef de l'État de placer l'homme au centre de toute action, l'enseignement de base a été effectivement rendu gratuit sur l'ensemble du pays. Et le chef de l'État a concrétisé ainsi un prescrit de l'article 43 de notre Constitution, jamais mis en œuvre jusqu'à ce jour.
David Jolino Makelele, je rappelle que vous êtes ministre d'État, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement central. Vous avez dit qu'il y a des acquis significatifs, certes, mais les défis sont encore énormes. Et s'il faut parler de ces acquis, vous avez évoqué notamment la gratuité de l'enseignement, et ce qui est une bonne chose, c'est une évidence. Mais vous savez que beaucoup d'experts relèvent le fait que les infrastructures n'ont pas suivi. De nouvelles écoles n'ont pas été construites et celles qui sont vétustes n'ont pas été réfectionnées pour les adapter aux réalités du moment où vous trouvez des salles de classe archi-combles et du coup les élèves étudient dans des conditions pénibles.
Oui, je voudrais espérer que personne, mais alors personne de sérieux ne pouvait s'imaginer que d'un coup de main, que tout serait fait en une année. Même dans les grandes démocraties, vous n'allez pas réaliser toutes ces promesses en une année. Nous avons dit que c'était une façon d'indiquer à la face du monde que nous sommes sérieux et que nous voulons respecter le gros de nos engagements. Mais n'oubliez pas, certains de nos engagements sont des engagements pris par le président de la République et d'autres sont des engagements qui ont été pris par ceux qui constituent avec nous la coalition. Donc, en bref, il faut nous juger à l'aune de ce qu'était le pays avant de notre arrivée au pouvoir et nous dire si ce que nous avons fait est un progrès ou pas. Sur une année, je vous le dis, sur une année,
Alors, l'autre aspect de cette prouesse que la gratuité de l'éducation, c'est les traitements, n'est-ce pas, de ceux qui sont censés former nos enfants, hein, les enseignants. Et les enseignants qui ont un salaire, c'est un salaire, comme on dit, un salaire de misère. Et certains ne sont même pas payés, on les appelle communément les NP. Et il est dit qu'en RDC, l'enseignement est l'un des secteurs traités en parents pauvres depuis toujours. Monsieur le ministre, pourquoi cela n'a pas changé avec un régime qui pourtant semble mettre en exergue les slogans « le peuple d'abord » ?
Je veux vous dire d'abord que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé une situation. Et cette situation, nous devrions faire, comme diraient les Belges, de faire avec. C'est-à-dire ne pas trop bousculer les équilibres qui étaient en vue, et puis surtout nous donner les moyens. Mais je veux quand même rappeler ici à la population, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, nous avons connu ce pays où les enfants étaient privés de l'école, les enfants, les petits-enfants, parce que les parents n'avaient pas les moyens de les envoyer à l'école. Et partant, nous avions une bombe à retardement. Ce sont tous ces enfants qu'on voit aujourd'hui, les Kuluna et autres, mais ils sont le fruit aussi d'un certain laisser-aller et qui a fait que les enfants ne voient pas les chemins de l'école. Nous l'avons fait. 4 millions d'élèves ont regagné, j'allais pas dire, les chemins de l'école. 4 millions, monsieur. Dites-moi si c'est pas un exploit. C'est d'abord la confirmation d'une promesse faite par le président Tshisekedi à la population, et deuxièmement, la réalisation concrète. Alors, vous me parlez des enseignants, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer, nous avions des enseignants qui dispensaient des cours, mais qui n'étaient pas pris en compte par l'État, qui n'étaient pas payés. On les appelle les non-payés, les NP. Aujourd'hui, il y a 132 000 enseignants qui sont payés. Il n'y a plus de non-payés, ils sont tous payés. Et il y avait des nouvelles, ce qu'on appelle des nouvelles unités, c'est-à-dire des gens qui donnaient des cours à gauche, à droite, sans être vraiment suivis, mais à la demande des écoles par-ci, par-là. Et nous avons demandé à donner confiance à ces gens-là qui ont donné un peu de l'heure à la nation. Et nous avons fait une étude, des enquêtes et des missions d'audit pour voir qui était éligible au statut d'enseignant. Et là, nous avons maintenant 144 000 personnes qui étaient enseignants aujourd'hui. Donc, je ne sais pas d'où peut venir la critique sur les rémunérations. Mais c'est normal, la situation économique et financière du pays n'est pas encore totalement florissante pour qu'elle appelle, j'allais pas ce que dire, un laisser-aller en termes des finances publiques. Mais nous avons la détermination d'aller petit à petit vers cet objectif-là.
Voilà, vous avez évoqué un chiffre, hein, vous parlez de 4 millions d'élèves qui ont regagné les chemins de l'école. Et vous ne pensez pas, monsieur le ministre, que suite au déficit d'écoles viables et puis au mauvais traitement, n'est-ce pas, que subissent les enseignants depuis toujours, ces 4 millions d'élèves risquent de ne pas bénéficier d'une bonne qualité de l'enseignement. Et du coup, le gouvernement risque de ne plus, n'est-ce pas, atteindre l'objectif qui est celui, n'est-ce pas, de former des citoyens qui vont prendre la relève demain.
Nous avions deux approches possibles. Soit nous laissions ces élèves chez eux, à la maison, à charge de leurs parents, soit nous en décidions à les remettre sur le banc de l'école. Alors, ceux qui sont remis sur le banc de l'école, c'est vrai, il y a des problèmes au niveau des infrastructures, mais nous avons déjà, il faut quand même le rappeler, que nous avons réussi à parachever au moins 153 écoles qui étaient dans le cadre du programme de 100 jours. Nous avons construit 30 écoles nouvelles. Nous y allons doucement avec les moyens dont nous disposons. Mais qu'est-ce que nous voulions ? Nous voulions que l'élan soit donné. Et l'élan, c'est un élan politique et philosophique. À savoir que ce pouvoir, le chef de l'État l'a dit, on ne va pas laisser les enfants, surtout les enfants des petites gens, des pauvres, sur les rues, alors qu'ils sont des Congolais comme tous. Et donc, il fallait absolument le faire. Ceci étant dit, lorsque nous donnons les infrastructures, mais nous devons y aller petit à petit, dois-je rappeler de nouveau que ça ne fait qu'une année qu'on est au pouvoir et que nous avons un mandat de 5 ans au total. Donc, le plus important, c'était que les gens se rendent compte que ces pouvoirs, ce gouvernement, peut, et c'est rare, concrétiser ses promesses qu'il avait faites à la population.
Voilà, au-delà de ces exploits que vous semblez mettre en exergue, vous reconnaissez quand même qu'il y a d'énormes défis, la paix n'est pas encore totale, les besoins sociaux de base ne sont pas entièrement satisfaits, le chômage est encore endémique, la stabilité de la monnaie reste une quête. Monsieur le ministre, pourquoi en une année, le gouvernement n'a pas été en mesure de relever les défis tels que le retour de la paix dans l'Est de la RDC, alors que lorsque le chef de l'État a accédé au pouvoir, on a senti, n'est-ce pas, dans son discours, sa détermination à rétablir la paix sur toute l'étendue de la RDC.
Oui, vous accordez quand même au président Félix Tshisekedi d'avoir fait en quelques mois, ce qui n'a pas pu être fait, disons, en d'autres temps, par d'autres.
Vous dites qu'en une année, il a fait ce que beaucoup n'ont pas fait avant vous, mais qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le plan de la sécurité?
Mais sur le plan de la sécurité, vous savez que nous avons d'abord, en ce qui concerne l'état-major officier qui pilotait la guerre à l'Est, nous avons fait le constat, suivant en cela d'ailleurs une demande exprimée par les populations de Béni en particulier, qu'il fallait changer l'état-major, le commandement de l'autre côté. Il fallait un courage particulier pour y arriver et il l'a fait. Il fallait absolument demander à la population de participer aux efforts de l'armée. La population a essayé de le faire. Il fallait donner les moyens à l'armée de le faire. On a commencé à le faire malgré nos maigres moyens. Et bref, on peut dire que par rapport à ce qu'étaient les miliciens il y a quelque temps, personne ne peut nier que leur force de nuisance a un peu baissé par rapport à ce qu'elle était avant. Et donc, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la situation n'est pas celle à laquelle nous pourrions prétendre, mais cette situation n'est pas si mauvaise par rapport à celle qu'elle était il y a encore une année. Je dis très bien, je l'ai dit dans mon message, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation, parce que tant qu'il y aura un mort congolais, ce sera comme une désolation pour nous et une situation dramatique. Mais la direction est celle-là, et je rappelle encore que nous sommes là que depuis une année, et que le temps de mettre tout en œuvre, je crois que ici là, lorsque nous aurons avancé avec les moyens, les résultats seront encore plus probants qu'aujourd'hui.
Alors par rapport à certains aspects de l'économie, s'il faut parler du franc congolais qui connaît une dépréciation quasi quotidienne, et comme conséquence il y a cette inflation qui a fait perdre à la plupart des ménages des Congolais leur pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, les experts ont toujours prôné des réformes dans les secteurs de l'économie et dans la fiscalité, mais on se rend compte que ces réformes tardent à venir. Pourquoi le gouvernement semble réticent, n'est-ce pas, pour initier des réformes dans le secteur de l'économie et sous le plan de la fiscalité?
Oui, monsieur, il faut quand même savoir, faut dire aux Congolais que nous avons une situation. Notre gouvernement est arrivé en fonction fin août, donc début septembre, en une année, pour voir quel est le chemin que nous avons parcouru. Nous avons trouvé d'abord trois mois, nous avons commencé à faire des travaux, la suite des travaux des 100 jours, parce qu'il y avait nécessité de réformer une partie de la République, d'aller dans le sens des infrastructures des bases dont la population avait besoin, parachevant ainsi le programme dit de 100 jours. Et nous avons par la suite connu des situations où les finances de l'État sont un peu moins florissantes que par le passé. Vous l'avez souligné, nous sommes un pays extrêmement extraverti. Notre économie repose notamment ou principalement sur le secteur minier. Le secteur minier, vous le savez, il est ce qu'il est, mais nous devons le reformer. Il y a des textes, et notamment le code minier qui est là, mais nous devons le reformer. Nous avions eu jusque-là une certaine pusillanimité à faire actionner les principaux responsables des secteurs miniers, à faire rentrer les devises dans notre pays. Eh bien, nous avons pris des mesures. Il y a plusieurs autres mesures qui doivent être prises, mais il y a encore des pesanteurs. Et bien, ce gouvernement, pour faire preuve, est déterminé à initier les réformes qu'il faut sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la gestion et d'autres aspects.
Merci, monsieur le ministre. Steve Kivuata, vous êtes secrétaire général du parti politique Nouvel Élan. Vous êtes aussi porte-parole du coordonnateur de la coalition Lamuka. Vous venez de suivre le ministre Jolino Makelele. Le gouvernement congolais met en exergue, n'est-ce pas, les prouesses, notamment sur le plan de l'éducation, sur le plan de la diplomatie aussi et sur le plan de la justice. Est-ce que le gouvernement congolais n'a-t-il pas raison?
Non. En fait, c'est un luxe que de faire l'évaluation de l'action gouvernementale du gouvernement Ilunga-Ilukamba. C'est un luxe parce que quand il faut évaluer, il faut un point de départ. Et on se rappelle que quand M. Ilunga-Ilukamba, le Premier ministre, a présenté son programme de gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, c'était plus littéraire que chiffré. Avec des actions non planifiées, non chronométrées dans le temps, et surtout pas de chiffres. C'était plutôt un chapelet de bonnes intentions. À ce titre, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut évaluer ? Donc, il y a eu une absence d'un programme commun de la coalition FCC-CACH, une absence de lisibilité de leurs actions dans le futur. Et deuxième chose, comment est-ce que l'on peut évaluer un gouvernement dont on sait qu'ils ont même du mal à mobiliser ne fût-ce que 450 millions de dollars par mois pour la réalisation du budget? 450 millions de dollars par mois représentent les dépenses contraignantes. Donc ils mobilisent en deçà de 450 millions, environ 300 à 350 millions de dollars par mois. Donc ce qui veut dire qu'ils ne réalisent aucun programme. Ils sont obligés même de recourir à la planche à billets pour compenser le déficit en termes de mobilisation de recettes. D'où, effectivement, le FMI semble plier bagage. Donc, devant cette situation, on ne se retrouve pas devant un bilan qu'on peut qualifier de négatif, parce que ça serait effectivement un luxe dont nous nous retrouvons devant un néant, devant un bilan inexistant.
Vous parlez d'un bilan négatif parce que vous estimez que pour évaluer le gouvernement Ilunga, il faut parler de son action, que l'action n'a pas été planifiée, n'est pas programmée, il n'y a pas de date, et vous estimez que c'est un bilan négatif. Mais concrètement, Steve Kiwata, il y a cette question de la gratuité de l'enseignement qui est non seulement saluée mais aussi encouragée par beaucoup de gens, où nous avons de nombreux enfants déscolarisés hier qui aujourd'hui sont scolarisés grâce à cette mesure de gratuité. N'est-ce pas un exploit accompli dans un espace d'une année pour un problème qui a duré environ 30 ans? N'est-ce pas un bilan positif?
Non. Pire qu'un bilan négatif, nous assistons à un néant. Parce que, au fait, la gouvernance, c'est comme par pilotage automatique. Même la fameuse gratuité de l'enseignement, qui est une bonne chose pour la communauté, mais a été mal exécutée aujourd'hui. Et il y a plus de centaines de milliers d'enseignants qui devaient être payés au deuxième semestre, qui ne l'ont pas été. Mais au fait, au-delà de la fameuse gratuité de l'enseignement, quand Monsieur le ministre Jolino Makelele nous parle d'une justice qui est devenue forte, je me pose la question, quelles actions ont-ils menées? Quelles réformes ont-ils menées? Quels moyens ont-ils mis à la disposition de la justice pour qu'elle devienne forte? Parce qu'ici, on parle de l'évaluation de l'action gouvernementale. Ils n'ont mené aucune action en termes de moyens mis à la disposition de la justice. Rien n'a été augmenté. C'est plutôt le gouvernement et le président de la République qui ont fait des dépassements budgétaires. Tandis que lorsqu'on analyse l'exécution du budget pour les crédits alloués à la justice congolaise, vous constatez qu'on a exécuté moins de 20% de l'enveloppe réservée à la justice. Qu'ont-ils fait? Je ne sais pas si par justice efficace, monsieur le ministre Jolino Makelele parlerait de l'arrestation de monsieur Vital Kamerhe, parce qu'on entend dire dans leur coalition que l'état des droits voudrait dire arrestation de Vital Kamerhe, de Jamal et de quelques personnes. Donc il n'y a eu aucune action, aucune réforme menée au niveau de la justice pour qu'on estime que c'est un point positif pour les gouvernements. Aucune action, pas pourtant, de moyen donné, pas de réforme de texte. Oui.
Pourtant, certains observateurs, en analysant la qualité dans le secteur de la justice, disent que cette justice longtemps dénoncée commence à gagner ses lettres de noblesse.
Non, on a comme l'impression que cette justice commence à avoir un certain activisme, mais finalement, quelle orientation nous donnons à cet activisme? Est-ce une autre dépendance que celle d'hier ou réellement qu'il y ait eu des réformes qui ont été menées? Parce que quand on parle évaluation en termes d'un bilan, on doit évaluer les actions. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour rendre la justice beaucoup plus forte? Quelles réformes de texte, quels moyens financiers donnés. Or, tous ces éléments, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui n'a été fait. Je ne sais pas si c'est par enchantement que cette justice est devenue forte. C'est ainsi que je voudrais peut-être avoir quelques indicateurs. Est-ce l'arrestation et la condamnation de M. Vital Kamerhe qui doit être considérée comme étant un point de départ de l'état des droits? Peut-être c'est ce que a voulu dire Monsieur le ministre Jolino Makelele, mais moi je nomme tout simplement une prise de conscience de magistrat qui ne peut pas être comptabilisé parmi les actions gouvernementales. Donc vous sentez que quand Monsieur le ministre Jolino Makelele parle, il a du mal effectivement à trouver des actions positives, il colmate le brèche, il racole un peu des éléments par-ci par-là, pour en réalité cacher l'évidence. L'évidence que ces gouvernements ne gouvernent pas. Nous sommes dans un pilotage automatique. Pire que ça, nous avons vu que ces gouvernements sont en permanente contradiction avec M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi, qui a lui-même ses propres programmes. Le premier, c'était son programme de campagne. Le deuxième, le programme de 100 jours. Et à un certain moment, il en présente d'autres programmes de lutte contre la pauvreté, etc., etc. On ne sait pas, on gouverne avec quel programme, avec quelle vision, ces multiples programmes, d'où la cacophonie au sommet de l'État, où on voit un Premier ministre très souvent se plaindre du fait qu'on lui ravit son contre-saint primo ministériel. Donc il y a la confusion totale, la cacophonie au sommet de l'État, pas d'éligibilité, pas de visibilité des actions de ces gouvernements pour l'avenir. C'est une gouvernance à pilotage automatique, donc le bilan c'est un néant, c'est inexistant. Parler d'un bilan négatif, ça serait même un luxe, ça serait leur jeter des fleurs.
Sur le plan de la diplomatie, M. Steve Kivuata, vous avez suivi ces reportages où le ministre lui-même dit qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la RDC sans les Congolais. Est-ce que ce n'est pas un point positif, ça?
Non. Encore une fois de plus, c'est malheureux de voir qu'on essaye de ramasser par-ci, par-là, deux éléments à mettre dans le bilan. Je pense que, en termes de ministre des Affaires étrangères, c'est beaucoup plus M. Félix Tshisekedi qui a eu à jouer ce rôle. On reconnaît effectivement le multiple voyage de M. Félix Tshisekedi à l'étranger, mais le gouvernement n'a pas mené assez d'actions dans le domaine. Et maintenant, parlons effectivement de retombées de ces multiples voyages de M. Félix Tshisekedi. À l'époque, il nous parlait de 1,5 milliard de dollars qui viendraient de la Banque mondiale, qu'on ne retrouve pas jusqu'aujourd'hui. Vous nous parlez du fait que la RDC est partout, dans tous les salons. Nous ne voyons de quoi ce gouvernement parle. Ils fournissent des efforts, ces éléments, pour séduire la population, pour nous dire que la misère que nous vivons aujourd'hui, elle n'est pas réelle et que nous nageons dans le bonheur. Nous n'y croyons pas et nous pensons qu'ils ne doivent pas rester dans le déni de la vérité. Aujourd'hui, ils nous produisent un bilan, disons-le, catastrophique, parce qu'il y a une gouvernance par pilotage automatique. Je n'ose même pas parler du fait que M. Ilunga Ilunkamba a amené au Parlement un budget de 11 milliards de dollars et qu'il ne pourra réaliser que 3,5 milliards de dollars de budget en ressources propres.
Merci,
c'est qui est le dernier budget laissé par Mouzito en 2012, il y a 8 ans. Il nous a promis un budget rectificatif, un collectif budgétaire, je pense qu'il l'a fait en mars. Jusqu'aujourd'hui, il est incapable de retourner au Parlement pour présenter un budget rectificatif réaliste. Le peuple est dans le désespoir et les hommes d'affaires, les investisseurs ne viennent pas parce que le pays est instable dans tous les domaines, sécuritaire, politique, économique et social.
Merci, nous allons vous redonner la parole. Le professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Comment vous jugez ce bilan de l'un du gouvernement Ilunkamba après avoir suivi les porte-parole du gouvernement et les porte-parole de la coalition Lamuka?
Pour mieux faire le bilan, je crois que tous les deux l'ont dit, il faut avoir une situation de référence. Et cette situation de référence est caractérisée par un héritage politique, économique et social qui était extrêmement sinistré. Donc au départ, la situation de référence en 2019 était caractérisée par une crispation politique permanente avec plusieurs opposants qui étaient emprisonnés. Vous avez une situation sécuritaire très fragile avec plus de 100 milices armées déployées à travers le pays et occupant des territoires entiers du pays, ADF, Nalu, FDLR, Ngoumino, Raïa, Mutombo, Kem 23 et j'en passe. Vous avez un taux de pauvreté qui dépassait les 70% de la population. Vous avez le fait que le pays occupait la queue en matière d'indice de développement humain. Vous avez les taux d'accès à l'électricité qui ne dépassaient pas 10% de la population. Vous avez un taux d'accès à l'eau potable qui était à peu près de 30%. Vous avez les taux de santé qui était l'un des plus faibles et qui avoisinait les 25%. Vous avez une corruption en délai pratiquement tous les services publics de l'État. Donc, vous avez là un tableau qui était très sombre. Alors, toute la question que l'on peut poser aujourd'hui, c'est celle de savoir quelles sont les améliorations que le gouvernement Ilunkamba a apportées.
Et à votre avis, quelles sont ces améliorations, monsieur le professeur?
Voilà, c'est ça le débat qui est au cœur de la discussion d'aujourd'hui. Et je crois qu'il faut partir de la situation de référence. Il est quasiment difficile que dans une année, que cette situation qui était très sombre, qui était noire, devienne blanche. Mais en fait, on peut là voir quelles sont les améliorations, dans le bon comme dans le mal, que le gouvernement Ilunga Ilunkamba a apportées. Mais d'abord, il faut dire une chose, c'est que pour apporter des améliorations, le gouvernement Ilunga a conçu un programme qui était articulé autour de 15 points. Bon, il est pratiquement difficile d'analyser point par point parce que je n'aurai pas suffisamment de temps. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau de la pacification du pays, qui était son premier point, la situation sécuritaire est restée très très fragile, avec de nombreux brasiers et des territoires, des non-droits qui sont encore contrôlés par des milices. Mais il faut aussi reconnaître les efforts fournis par le gouvernement en matière, notamment de lutte contre les ADF Nalu, qui ont aujourd'hui été, je ne dirais pas neutralisés parce qu'ils continuent à être là, mais leur force de frappe a été considérablement réduite. Mais il faut aussi reconnaître le fait que dans les grandes villes, la situation sécuritaire en termes d'insécurité urbaine, telle qu'à Lubumbashi, à Bukavu, même à Kinshasa, Bunia, elle reste très volatile. En matière de renforcement de l'autorité de l'État, parce que ça c'était son deuxième point, notamment la promotion de l'État de droit, en tout cas il y a beaucoup de choses à faire, mais ça demande en fait un consensus républicain, étant donné que le concept même d'État de droit est diversement interprété selon qu'on est dans un cas X ou un camp politique Y.
Professeur Félix Kabamba, le gouvernement met en avant ce qu'il estime être des points positifs de son action, notamment la gratuité de l'enseignement, et la diplomatie et la justice. Et par rapport à la gratuité de l'enseignement, quelle est votre appréciation, hein? Je rappelle ici que vous-même, vous êtes enseignant.
Disons, je venais de dire là que l'un des points, c'était que le taux de non-scolarisation de la population congolaise était assez élevé. Et donc, la gratuité a eu comme point positif de diminuer ce taux. Du coup, aujourd'hui, tout le monde peut aller étudier sans nécessairement s'attendre à payer les frais de scolarité. Mais il faut dire que les défis sont énormes. Quand on voit aujourd'hui la mise en pratique de cette mesure, on se rend bien compte qu'elle a été facile à prendre, mais elle est très difficile à mettre en œuvre, tant il est vrai que dans plusieurs provinces, il y a plusieurs places.
Alors, sur le plan de la diplomatie, même si les porte-parole du gouvernement affirment qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut plus parler de la RDC sans la RDC, mais c'est quoi les résultats palpables de tout cela? Je pense que ce qui importe, c'est les résultats de cette diplomatie. Vous avez suivi même les porte-parole de la coalition Lamuka qui estime que même la ronde que le chef de l'État a faite à travers les pays européens, les pays américains, et apparemment cela n'a pas encore produit des résultats palpables. Il n'y a pas de retombées jusque-là.
Je crois qu'il y en a. Il y a bien de retombées. En fait, la diplomatie, c'est un domaine partagé entre le chef de l'État et le gouvernement. Et donc, on a vu une reprise de la coopération entre, par exemple, la Belgique et la RDC. Nous avions vu une normalisation de relations entre les États-Unis. Nous avions vu également une normalisation de relations entre la RDC et les institutions de Bretton Woods, avec à la clé un certain nombre de subventions directes qui ont été accordées au gouvernement congolais. Donc, je crois que sur ce plan, il y a eu quand même des avancées qu'il faut retenir. évidemment, c'est sur 5 ans qu'il faudra les apprécier. Mais il faut dire que ce qui a été fait au niveau diplomatique est quand même, de mon point de vue, est quand même positif.
Merci, Monsieur le Ministre David Jolino Makelele. Vous allez réagir à ces commentaires qui viennent des auditeurs qui nous appellent depuis Mbandaka.
Maître Edmond Bokolo depuis Mbandaka. Jusqu'alors, il n'y a pas d'avancées significatives comme le soutien à tort le porte-parole du gouvernement, car la vie socio-économique du pays est au lambeau. Le chômage a atteint son apogée, moult agents publics de l'État. À l'est du pays, nos frères et sœurs continuent à subir les exactions des forces armées étrangères et mères injustement. Le gouvernement doit se rattraper, car dans des ans qui suivent, ils seront responsables devant le peuple qui vit dans la misère. Donc la population congolaise en a assez avec des discours ou déclarations démagogiques qui engendrent toujours les résultats qui ne racontent pas leurs attentes.
Monsieur le ministre David Jolino Makelele, votre réaction.
Oui, je vais d'abord commencer par répondre à Monsieur Yves Kivota.
Steve Kivota.
Je ne sais pas, lui qui est de la Mouka, j'ai toujours posé cette question, je n'ai jamais eu de réponse. Si son candidat était élu président avec la majorité SCC à l'Assemblée nationale, qu'aurait-il fait, lui, son candidat, en respectant la Constitution? Qu'aurait-il fait? Je veux qu'il réponde à cette question-là lorsqu'il prendra la parole, en premier. Deuxièmement, lorsqu'on nous parle du gouvernement Ilunkamba, que c'est un programme littéraire, mais en même temps qu'on dit que c'est un programme littéraire, c'est-à-dire du blabla, il n'y a rien, quand même, on se permet par la suite de commencer à évaluer des choses qui ne représentent rien. Je crois qu'il y a une contradiction philosophique qui doit lever. Et en ce qui concerne la gravité, attendez, je veux bien qu'il soit en situation, en posture d'opposant éternel, mais lorsque vous parlez de la gratuité et que vous ne voulez pas voir les enfants, les 4 millions qui ont repris le chemin de l'école, les parents qui ont du pouvoir d'achat à la suite des dépenses qu'ils ne feront plus sur la scolarité de leurs enfants, les enseignants qui ont été repris, les non-payés qui sont payés, les nouvelles unités qui sont engagées, s'ils ne voient pas ça, c'est de la littérature, c'est qu'ils vivent dans un monde particulier. Et en ce qui concerne la justice, c'est aussi un état d'esprit. C'est une prise de conscience qu'il a dit des juges. Mais cette prise de conscience, pourquoi cela n'a pas été possible avant? Avant, on les embrigadait, on nous embrigadait, nous tous les opposants. N'est-ce pas? Lorsqu'on faisait des manifestations, on était victimes des gaz lacrymogènes. Je ne sais pas s'il en a reçu, lui, lors des dernières manifestations de l'opposition ou de la Mouka. Non. Lorsque on parle de la diplomatie, mais il faut un peu de retenue. Vraiment, vous ne pouvez pas reconnaître que c'est parce que le Congo a donné un autre visage de lui, à travers la diplomatie agissante du président de la République, que nous avons, comme l'a répété le professeur Félicien Kabamba tout à l'heure. Mais attendez, lorsque vous avez vu, un pays comme la République démocratique du Congo être appelé à faire la médiation entre des grands, comme le Rwanda et l'Ouganda, vous avez vu qui présidait aux destinées de l'Union africaine, alors qu'il est président de la République. Vous avez vu des investisseurs allemands, les tout derniers qui sont venus pour des projets INGA, des projets colossaux, avec des milliards de dollars. Vous pensez que ça ne représente rien là et que c'est tombé du ciel? Lorsque j'ai dit qu'on n'a pas achevé 153 écoles, qu'on en a construite 11 nouvelles, qu'on a fait cette gratuité, que les infrastructures vont dire, mais il faut qu'il aille voir la voirie urbaine s'il ne sait pas, voir que l'avenue Sayo, l'avenue Kabambar, Pelende, l'avenue de l'université Luambo Makiati, Aksaïfitine, tout ça a été renouvelé. Et s'il ne peut pas voir tout ce qu'on a fait comme équipement, les ponts, les routes et à gauche, à droite, c'est qu'il vit dans un autre monde. Et moi, je ne peux pas lui empêcher de vouloir faire une observation de ce gouvernement avec des lunettes des gens qui vivent ailleurs.
Il évoque les moyens. Lorsque vous parlez de la situation qui s'est améliorée au niveau de la justice, il voudrait savoir, n'est-ce pas, quels sont les moyens que vous avez mis à la disposition de cette justice pour que les choses évoluent dans ce secteur.
Mais il aura constaté d'abord qu'avant même qu'on mette les moyens on les met, mais progressivement en fonction de nos moyens financiers. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un état d'esprit. Parce que cet état d'esprit, il manquait quelqu'un à la tête de l'État pour dire voici le cap, c'est-à-dire tolérance zéro, c'est-à-dire lutte implacable contre la corruption, etc. Je l'ai vu venir avec Zanidion, Vital Kamerhe, je l'ai vu venir. Mais ça, là n'est pas le problème, là c'est un autre aspect de la justice qui ne m'appartient pas de débattre ici avec lui. Mais nous avons dit, la justice c'est l'état des droits. L'état des droits suppose qu'on respecte les lois et que les principes comme les droits de la défense soient effectivement appliqués. Merci. Et lorsque une partie estime que cela n'est pas le cas, il peut se pourvoir en appel ou en cassation, conformément à notre progrès, à notre justice également.
Merci.
Donc, nous, ce serait mentir que de dire que, un, les investisseurs ne viennent pas, le Fonds monétaire international qui vient de nous allouer des avances, des crédits, des 2 x 368 millions, la Banque mondiale qui donne un prêt d'1 milliard de dollars pour d'appliquer l'enseignement aux besoins sociaux de base, les investisseurs, on a vu les tout derniers, les Allemands qui viennent, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais concrètement, nous avons tenu à ce que les fonctionnaires puissent voir son pouvoir d'achat augmenter, même légèrement, c'est un début.
Tiffoata, vous allez aussi réagir à ce commentaire de cet auditeur qui s'appelle Félix Epanjola.
Félix Epanjola à Kananga. Le gouvernement piloté par le professeur Ilun Kamba a montré sa bonne volonté de travailler pour le peuple, car il y a certains secteurs, notamment la justice, qui a récupéré son pouvoir. Aux infrastructures, on voit quelques chantiers lancés par-ci par-là, malgré beaucoup reste à faire. À l'éducation, avec la gratuité lancée par le chef de l'État, bon nombre d'élèves ont repris le chemin de l'école. Mais les revendications des nouvelles unités doivent être prises en considération. À l'économie, il y a beaucoup à faire car il y a la fameuse question de la dépréciation du franc congolais et la hausse presque de tous les produits de la vie. Et la sécurité reste le plus grand défi à relever tant l'insécurité est à l'est du pays.
Steve Kivuata, votre réaction?
Au fait, moi ça m'étonne que quand on parle des actions du gouvernement, on cite les actions que pourrait mener un bourgmestre. Quand on nous parle de quelques routes où l'on a pratiquement placé quelques ciments sur des trous, il ne s'agit pas de cela quand on parle d'une action gouvernementale. Il s'agit des actions qui doivent être chiffrées, planifiées, chronométrées, que l'on puisse évaluer. J'ai même entendu dire, monsieur le ministre Jolino Makelele, parmi les actions du gouvernement qu'ils ont travaillé sur l'état d'esprit de magistrats. Je ne sais pas si c'est cela, effectivement, une action gouvernementale à évaluer. Il ne vous a avancé aucun chiffre parce que, je vous l'ai dit, l'exécution du budget note que le montant qu'on alloue à la justice congolaise, on l'exécute à moins de 20%. Tandis que le gouvernement et la présidence de la République font de dépassements budgétaires, deux fois au-delà de 200%. Donc, vous sentez qu'il a du mal à nous donner des éléments concrets. Il me pose la question, si le président Fayulu était installé, parce que élu, il l'a été, mais installé à la place de M. Félix Tshisekedi, qu'aurait-il fait? Un véritable président élu ne pouvait pas coexister avec une majorité parlementaire artificielle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'UDPS qui garde le leadership de leur coalition, le cash, qui l'a dit, que la majorité parlementaire du FCC a été obtenue par fraude avec des députés nommés. Un président élu, Martin Fayulu, ne pouvait pas coexister avec une telle majorité. On aurait usé de toutes les voies de droit pour mettre cette majorité parlementaire artificielle à l'écart. Et ça, je l'ai dit, on l'aurait fait ainsi. Si eux, ils coexistent avec le mal, c'est à eux que ça appartient effectivement un jour de défendre leur bilan catastrophique, ou je dirais même un néant.
Steve Kivuata, vous évoquez, n'est-ce pas, l'absence des visions par rapport à ce gouvernement Ilun Kamba. Et à votre avis, quelles devraient être les nouvelles priorités de ce gouvernement?
Non, mais une gouvernance suppose de réformes. Vous l'avez effectivement entendu dire qu'ils feront un jour de réformes. Ils n'en ont presque pas dans le viseur. Et dans une année, ils n'ont rien réformé. Au niveau des entreprises publiques, ils ont plutôt plus nommé des mandataires que pensé à comment réformer nos entreprises publiques. Quel devrait être l'apport de nos entreprises publiques? Les secteurs miniers, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme réforme pour que c'est moins en termes des devises de rapatriement, où les entreprises du secteur minier devaient rapatrier plus de 60% de devises après qu'ils aient vendu le matière première à l'extérieur du pays. Ils sont incapables, effectivement, de soumettre, de faire respecter cette obligation par les sociétés étrangères.
Merci, professeur Pelché Kabamba, vous allez aussi réagir à ce point de vue de Maître Josué Assani.
Maître Josué Assani, à Bukavu, au site Kivu. Salut certains efforts réalisés par le gouvernement Ilunga, Ilunkamba. Il ne devrait te donner ces résultats que nous avons, car il a été créé le débit entre l'enclume et le marteau. Une fois qu'il veut travailler pour l'intérêt du peuple congolais, il reçoit toujours les mots d'ordre émanant des différents camps politiques. À mon avis, j'estime que ce gouvernement ne fera grand-chose aussitôt qu'il serait sous contrainte. Personnellement, je pense que ces deux coalitions au pouvoir, FCC-CACH, devraient mettre le peuple congolais au centre de toute préoccupation politique plutôt que de privilégier leurs intérêts personnels et répondre aux mots d'ordre de leurs appartenances politiques afin de se réjouir de la galette des rois.
Professeur Félicien Kabamba.
Alors là, il pose la question de deux contraintes principales. En fait, il y a deux contraintes principales qui empêchent ce gouvernement de pouvoir se pouvoir correctement. Et donc, la première contrainte est d'ordre politique, c'est qu'en fait, l'alliance FCC-CACH a donné lieu à une vie coalitionnelle très mouvementée et qui a été soumise à beaucoup de turbulences et des agitations répétées. Et donc, du coup, nous avions eu affaire à une coalition qui a alterné entre coopération et conflit. Et cela n'a pas permis aux membres du gouvernement de regarder vers une seule direction, vers les mêmes objectifs et d'avoir les mêmes cibles. Et donc, on a vu de temps en temps qu'il y avait des communications par médias interposés et qui ont donné l'impression d'avoir affaire à un gouvernement où il y avait plusieurs tendances, sinon deux principales.
Et donc, on peut dire que parmi les présenteurs, il y a cette volonté des autorités morales des coalitions au pouvoir qui sont prises en compte au détriment de la volonté du peuple congolais.
Bon, je voudrais dire plutôt que c'est une coalition qui alterne coopération et conflit. Et je voudrais vraiment me limiter là. La deuxième contrainte, c'est le Covid-19. En fait, comme tous les gouvernements du monde, on a assisté évidemment à un phénomène d'inflation. Quand aujourd'hui vous regardez la perte du pouvoir d'achat en Afrique du Sud, en Zambie et tout ça, donc c'est un phénomène qui est pratiquement mondial. Et donc nous avions perdu, les Congolais, des millions de Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat du fait du Covid-19. Et donc on a pu constater qu'avec le Covid-19, il y a eu le phénomène de confinement et donc la plupart d'activités n'ont pas été actionnées et du coup, cela a eu une répercussion sur l'économie et donc on a aujourd'hui une perte de pouvoir d'achat de millions de Congolais.
Oui, à votre avis, quelles doivent être les nouvelles priorités du gouvernement Ilunga-Ilunkamba?
Alors, la première priorité, et moi je trouve que cela est principal, c'est que la coalition FCC-CACH doit trouver des solutions internes de son fonctionnement harmonieux. Et il faudra évidemment éviter à la population congolaise les spectacles du genre de ce que l'on a vécu dernièrement. Ça, c'est une première exigence et celle-là, elle est cardinale, elle est fondamentale. Si le Premier ministre ne saura pas diriger un gouvernement, si le ministre ne regarde pas tous dans la même direction et si tous sont pris en otage par leur propre camp politique. La deuxième exigence, c'est qu'en fait, le contexte de Covid-19 demande une plus grande créativité, une grande discipline. Il faut absolument que cette discipline-là soit dans la gestion de la chose publique, soit mise en marche. Mais il y a une troisième chose qui est très importante, c'est la lutte contre la corruption, parce que comme on l'a constaté, la corruption a été le phénomène qui a fait que la grande partie des ressources de l'État soit récupérée par ceux qui sont aux affaires, au détriment de la grande partie de la population congolaise. Il faut donc avoir une politique rigoureuse de la lutte contre la corruption.
Merci, je considère ça comme votre conclusion, professeur, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur le ministre David Jolino Makelele, allô? Apparemment, il n'est plus là. Steve Kivota, est-ce que vous pouvez conclure?
En fait, tout le monde a senti que le ministre Jolino Makelele avait du mal à ressortir les véritables actions menées par le gouvernement. Il a tantôt mais.
Allô, Steve Kivota? Apparemment, lui aussi, on l'a perdu. Allô? Voilà. Le ministre, il n'est toujours pas là? Ministre David Jolino Makelele. Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Merci à Bob Landou qui était à la technique, à Dona Madim et Kéline Couté qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.